Chapitre 48. L'eau de pluie, un crachin agaçant, ruisselait sur le visage de Richard, créant un goutte-à-goutte énervant au bout de son nez. Il l'essuya d'un geste rageur. Bien au-delà de la fatigue, le jeune homme ne savait plus très bien ce qu'il faisait. Une seule certitude lui restait, il ne réussirait pas à trouver ses amis. Au terme d'inlassables recherches, il devait se résigner. Arpenter dans tous les sens les routes et les pistes n'avait rien donné, pas un signe de Zed, Chase et Callan. Bien sûr, il n'avait exploré qu'une infime partie de ses chemins, s'autorisant très peu d'heures de repos la nuit, surtout pour ne pas épuiser son cheval, et même là il avait parfois continué à pied. Depuis qu'il avait faussé compagnie à son frère, les nuages bas et lourds limitaient la visibilité. Une malédiction de plus, au moment où il avait plus que jamais besoin d'écarlate. Tout conspirait contre lui, comme si le destin s'était pour de bon rangé dans le camp de Darkenral. Callan devait être sa prisonnière à présent. Depuis le temps, elle avait sûrement atteint le palais du peuple. Il força sa monture à avancer sur le chemin de montagne qui serpentait entre des bosquets d'épicéas. Le sol couvert de mousse étouffait le martèlement des sabots de la bête. Dans une obscurité quasi totale, l'homme et le cheval gagnèrent une zone où les arbres devenaient plus rares, les exposant à la morsure d'un vent glacial qui faisait claquer le manteau de Richard et gémissait à ses oreilles. Des filaments de nuages noirs et des volutes de brume ondulaient devant lui. Pour se protéger un peu, il releva sa capuche. Bien qu'il ne vît rien, il sentit qu'il avait atteint le sommet du col et commençait à descendre le long du versant opposé. Il était très tard dans la nuit. À l'aube, ce serait le premier jour de l'hiver, celui qui sonnerait le glas de la liberté. Avisant un abri acceptable sous un rocher, Richard décida de dormir un peu avant de voir le dernier soleil levant de sa vie. Il se laissa tomber du dos trempé d'eau et de sueur de son cheval et l'attacha à un arbrisseau rachitique presque étouffé par de hautes herbes. Sans prendre la peine de sortir sa couverture, il se nicha sous le rocher, enveloppé dans son manteau, et essaya de s'assoupir. Mais il pensa à Callan et à ce qu'il devrait faire pour empêcher qu'une mort de Sith la torture. Dès qu'il aurait aidé Ral à ouvrir la bonne boîte, c'en serait fini de lui. Même si son ennemi avait promis de l'épargner, quelle existence mènerait-il après avoir été touché par le pouvoir de la mère inquisitrice? De toute façon, Ral lui avait menti. Jamais il ne lui laisserait la vie. Son seul espoir, que sa fin soit rapide. Sa décision d'aider le maître, il le savait, condamnait aussi Zed à mort. Mais tant d'autres innocents vivraient. Sous le joug de Darkenral, sans doute. Ça valait encore mieux que périr. De quelque façon qu'il envisage le problème, Richard ne pouvait supporter l'idée d'être responsable de la fin de tout et de tous. Au sujet de la trahison, Ral ne lui avait pas menti, donc il savait sûrement aussi quelle boîte le tuerait. Et même si ce n'était pas vrai, comment risquer la survie de l'univers sur un pareil coup de dé? À court d'options, Richard n'avait plus qu'un seul chemin, aider Ral. Ses côtes se ressentaient toujours des mauvais traitements de Dena. S'étendre restait difficile et respirer lui faisait mal. Dès qu'il se fut endormi, les cauchemars revinrent. Depuis son départ du palais, il le hantait chaque nuit. Au moins, il tenait la promesse faite à Dena. Il rêvait d'elle, de son instrument de torture, de l'impuissance qu'il avait éprouvée. Au plus profond de lui-même, il restait persuadé de ne pas pouvoir échapper à la mort de Sith. Parfois, Michael était présent pendant les séances, observateur intéressé. Ou c'était Callan qu'on torturait, toujours sous le regard de son frère. Richard se réveilla couvert de sueur et tremblant de peur. Dans son hébétitude, il s'entendit gémir et implorer grâce. Les rayons du soleil frappaient le sol de biais sous son abri. À l'est, l'astre du jour apparaissait, boule orange dans un ciel gris. Richard se leva et s'étira, le regard rivé sur l'aube du premier jour de l'hiver. Il était très haut dans la montagne. Autour de lui, les pics se perdaient dans les nuages qui couvraient à l'infini l'horizon gris vaguement teinté de rose. Au milieu de cette mer de nuées se découpaient les contours du palais du peuple. Caressé par les premières lueurs du jour, l'édifice se dressait devant lui, guettant son arrivée. Richard sentit un frisson courir le long de son échine. Il lui restait un sacré bout de chemin à faire. Une erreur tragique de calcul. Il devait se dépêcher. Quand le soleil serait à son zénith, l'heure d'ouvrir les boîtes sonnerait. Un mouvement à la périphérie de son champ de vision attira son attention. Derrière lui, le cheval hennit à la mort. Des hurlements lui répondirent. Des chiens à cœur. Richard dégaina son épée au moment où il surgissait de derrière les rochers. Avant qu'il ait pu le rejoindre, les chiens attaquèrent son cheval et le renversèrent. D'autres bondirent sur le sourcier. Un instant paralysé par la peur, il se ressaisit et sauta sur le rocher au creux duquel il avait dormi. Gueule grande ouverte, les monstres tentèrent de le suivre. Il tua les premiers, mais dut reculer quand les suivants prirent pied sur son perchoir. L'épée fendit d'autres crânes et ouvrit d'autres ventres. Un océan de fourrure et de crocs déferlait sur Richard par vagues successives. Il continua de frapper et de reculer, puis il entendit dans son dos des raclements de griffes sur la pierre. Pris en tenaille, il sauta sur le côté. Les monstres se percutèrent et se battirent pour gagner le droit d'être le premier à lui arracher le cœur. Richard monta plus haut sur le rocher. À grands coups d'épée, il contint ses agresseurs, égorgeant tous ceux qui osaient approcher. Mais c'était un combat perdu d'avance. Tôt ou tard, il serait submergé par leur nombre. Il s'abandonna à la fureur de l'épée et avança sur ses adversaires. Impossible d'abandonner Callan si près du but. Il devait réduire en bouillie les chiens à cœur. Dans un brouillard de sang, le sourcier, livré à sa rage, marchait inexorablement à la mort. Puis les flammes se déchaînèrent. Dans un enfer de feu, les cris de douleur des chiens à cœur furent vite couverts par les rugissements d'un dragon. L'ombre d'écarlate tomba sur Richard, qui n'avait pas cessé de pourfendre les monstres trop téméraires. L'air empestait le sang et la fourrure calcinée. Écarlate saisit Richard du bout d'une serre et le souleva de terre, l'arrachant à la meute. Pendant que la femelle dragon volait vers une clairière sur le flanc d'une autre montagne, il reprit péniblement son souffle, puis son ami le posa et atterrit en douceur près de lui. Au bord des larmes, le sourcier lui passa les bras autour du cou et se blottit contre ses écailles rouges. « Merci, tu m'as sauvé la vie, et celle de tant d'innocents. Tu es une femelle dragon d'honneur. »
Un marché est un marché,
bougonna Écarlate en crachant quelques flammèches.
Et puis il fallait bien que je t'aide. Dès qu'on te laisse seul, tu te fourres dans les ennuis jusqu'au cou.
Tu es la créature la plus belle que j'ai jamais vue,
lança Richard. Toujours haletant, il désigna le haut plateau.
Écarlate, je dois aller au palais du peuple. Tu veux bien m'y amener?
Tu n'as pas trouvé tes amis, et qu'en est-il de ton frère?
Il m'a trahi. Ce lâche a tout vendu à Darkenral. J'aimerais que les hommes aient la moitié du sens de l'honneur des dragons.
J'ai de la peine pour toi, Richard Cypher. Monte, je vais te conduire.
À petits coups d'ailes réguliers, le reptile volant s'éleva au-dessus de la mer de nuages qui couvrait les plaines d'Azrith. En route pour le dernier endroit au monde où Richard avait envie d'aller. À cheval, le voyage lui aurait pris une bonne partie de la journée. À dos de dragon, il fallait moins d'une heure. Écarlate replia les ailes et piqua vers le plateau. Les vêtements claquant au vent, Richard regarda approcher le palais du peuple. Vu du ciel, on prenait toute la mesure de son immensité. Comment des hommes avaient-ils pu construire pareille merveille? On aurait dit le rêve d'un architecte fou. Écarlate décrivit un cercle au-dessus du plateau à bonne distance des tours, des murailles et des toits. Les voir défiler sous lui donna le tournis à Richard, soulagé quand son ami piqua vers une grande cour à l'intérieur du mur d'enceinte et battit des ailes pour atterrir. Pas de garde en vue, ni d'autres âmes qui vivent. Richard se laissa glisser à terre. Écarlate secoua la tête, puis la baissa vers lui, les oreilles aplaties.
« Tu veux vraiment que je te laisse seul ici ?»
Richard acquiesça.
« Alors, le délai de 6 jours est écoulé et notre marché n'existe plus. Lors de notre prochaine rencontre, je ne ferai pas de quartier. »
« C'était la règle du jeu, mon ami, » dit Richard avec un sourire. Mais tu n'en auras pas l'occasion. Aujourd'hui, je vais mourir.
Essaie d'éviter ça, Richard Cypher,
grommela Écarlate.
J'ai toujours l'intention de te dévorer.
Souriant de toutes ses dents, Richard flatta la gorge de la bête. Prends soin de ton petit quand l'œuf éclorera. J'aurais aimé le voir, mais je ne doute pas qu'il soit superbe. Même si tu détestes servir de monture aux humains, merci de m'avoir fait découvrir l'ivresse du vol. Et sache que je tiens cela pour un privilège.
J'adore ça aussi. Tu es un être comme on en rencontre rarement, Richard Cypher. Je n'ai jamais croisé personne qui t'arrive à la cheville.
Je suis le sourcier, le dernier.
Sois prudent, sourcier. Tu as le don, utilise-le. Sers-toi de toutes tes armes pour lutter et n'abandonne jamais. Râle ne doit pas te dominer. Enfin, s'il faut mourir, fais-le en combattant avec tout ce que tu as et tout ce que tu sais, comme un dragon.
Si ça pouvait être aussi simple, soupira Richard. Écarlate, avant la disparition de la frontière, avais-tu conduit Râle en terre d'Ouest?
Très souvent, oui.
Où le déposais-tu?
Près d'une maison plus grande que les autres, avec des murs de pierre blanche et des toits en tuiles. Un jour, je l'ai amené ailleurs, une modeste chaumière où il a tué un homme. J'ai entendu ses cris, tu sais. Quelques jours plus tard, il a voulu que je me pose près d'une autre demeure très simple.
La résidence de Michael, la maison de son père et la sienne. Accablé de tristesse, Richard baissa les yeux et soupira. Merci encore, Écarlate. Il ravala la boule qui lui nouait la gorge et releva la tête. Si Darkenral essaie encore de te réduire en esclavage, j'espère que ton petit sera en sécurité et que tu pourras le combattre jusqu'à la mort. Et il y a trop de noblesse en toi pour que tu aies un maître. Écarlate lui fit son étrange sourire de dragon et s'envola. Richard la regarda décrire un grand cercle au-dessus de lui, puis s'orienter vers l'ouest et s'éloigner à tire d'aile. Quand elle ne fut plus qu'un point minuscule dans le ciel, il approcha du palais. Il se prépara à un combat contre les deux gardes du portail, qui se contentèrent de le saluer poliment. Un invité de retour. S'engageant dans un couloir, il prit la direction très générale du jardin intérieur où Darkenral conservait les boîtes. Un moment, il eut du mal à se repérer. Puis il reconnut quelques colonnades et passa devant des cours de dévotion familières. À la bord des quartiers de Dena, il garda la tête bien droite et s'interdit d'y jeter un coup d'œil. Son cerveau était comme embrumé par l'énormité de la décision qu'il avait dû prendre. Richard Cypher, l'homme qui livrerait le pouvoir d'Orden à Darkenral. Même si cela épargnerait un calvaire à Kalan et sauverait d'innombrables vies, il se sentait dans la peau d'un traître. Si quelqu'un d'autre avait pu se charger d'aider Râle, mais lui seul détenait les réponses dont ce monstre avait besoin. Il s'arrêta devant une cour de dévotion munie d'un bassin et regarda les poissons onduler dans l'eau. Combattre avec tout ce qu'il savait, avait dit Écarlate. Que pouvait-il y gagner? Et l'univers? Le même résultat final, ou pire encore. Jouer avec sa vie était une chose, risquer celle des autres, et celle de Kalan surtout. Non. Il était là pour assister Darkenral et il jouerait son rôle. Pas question de revenir là-dessus. La cloche sonna. Richard regarda les fidèles affluer, s'agenouiller et commencer à psalmodier. Deux morts de scythe en cuir rouge approchèrent et le dévisagèrent, étonnés de le voir debout. Jugeant plus prudent d'éviter les conflits, il s'agenouilla, pressa le front sur la mosaïque et pria comme les autres. Sa décision prise, il n'avait nul besoin de réfléchir. Maître Râle nous guide, Maître Râle nous dispense son enseignement, Maître Râle nous protège, à sa lumière nous nous épanouissons, dans sa bienveillance nous nous réfugions, devant sa sagesse nous nous inclinons, nous existons pour le servir et nos vies lui appartiennent. Il répéta inlassablement ses absurdités, se vidant de son angoisse. À force de chercher la paix intérieure, il allait la trouver quand une idée explosa dans son esprit. Tant qu'à murmurer une prière, autant qu'elle ait un sens profond pour lui. Pour cela, il suffisait de quelques modifications.
« Qu'Allan me guide, qu'Allan me dispense son enseignement, qu'Allan me protège, à sa lumière je m'épanouis, dans sa bienveillance je me réfugie, devant sa sagesse je m'incline, j'existe pour l'asservir et ma vie lui appartient. »
Alors une autre idée lui explosa dans la tête. Sous le choc, il s'en redressa sur les talons, les yeux écarquillés. Il savait ce qu'il devait faire.
Zed le lui avait dit.
Ce que croyaient la plupart des gens était faux. La première leçon du sorcier. Voilà trop longtemps qu'il était le dindon de la farce, trop longtemps qu'il écoutait les gens. À présent, il ne fuirait plus la vérité. Un sourire s'épanouit sur son visage. Il se leva. Désormais, il croyait de tout son cœur. Tremblant d'excitation, il se fraya un chemin parmi les fidèles agenouillés. Les deux morts de Cid se redressèrent. Épaule contre épaule, l'air sinistre, elles lui barrèrent le chemin. Il s'arrêta. La plus grande des deux tortionnaires, une blonde aux yeux bleus, brandit son agiel.
« Personne n'a le droit de se soustraire aux dévotions. Personne !»
Richard soutint le regard furieux de la femme.
« Je suis le sourcier !»
dit-il en saisissant la gielle léguée par sa maîtresse.
« Et le compagnon de Dena. C'est moi qui l'ai tué avec la magie qu'elle utilisait pour me dominer. Je viens de faire ma dernière prière à Maître Oral, à vous de décider si vous entendez vivre ou mourir. »
Les morts de Cid se regardèrent, froncèrent les sourcils et s'écartèrent. Richard reprit le chemin du jardin de la vie, vers son rendez-vous avec Darkenral. Alors qu'il gravissait péniblement la route conduisant au plateau, Zed jeta un coup d'œil méfiant à ce qui les attendait au-delà du brouillard de plus en plus fin avec l'altitude. Bientôt il se dissipa, les laissant sur un chemin baigné par le soleil du milieu de matinée. Devant eux, un pont-levis commença à s'abaisser sur un abîme infranchissable autrement. Quand il aperçut les soldats qui attendaient de l'autre côté du passage, Chase s'assura que son épée courte coulissait bien dans son fourreau. Mais les gardes ne portèrent pas la main à leurs armes, alignés des deux côtés de la route, et ils jetèrent à peine un regard aux trois visiteurs. Callan les dépassa sans tourner la tête. Chase, lui, les foudroya du regard, comme un fou furieux qui s'apprête à faire un massacre. Ils le saluèrent. Certains allant jusqu'à lui sourire. Sans quitter des yeux les militaires, Chase souffla à Zed.
« Je déteste ça. C'est trop facile. »«
Pour nous tuer, Darkenral doit d'abord nous laisser atteindre le lieu de l'exécution. »«
C'est censé me rassurer, »
grogna le garde-frontière.
« Ton honneur n'en sera pas souillé, mon ami, »
dit le sorcier, une main sur l'épaule du colosse.
« Rentre chez toi avant que la porte se referme sur nous à jamais. »«
Quand tout ça sera terminé. »
Zed approuva du chef et accéléra le pas pour marcher dans le sillage de Callan. Lorsqu'ils atteignirent le plateau, ils furent vite arrêtés par un mur d'enceinte qui s'étendait à l'infini. Des dizaines d'hommes grouillaient sur les remparts. Sans ralentir, Callan approcha du portail. Dès qu'ils la virent, deux gardes s'échinèrent à pousser les lourds battants. L'inquisitrice les franchit sans hésiter.
« On entre ici comme dans un moulin !»
lança Chase au capitaine de la garde.
« Cette dame est attendue par Maître Oral !»
répondit l'officier surpris.
« Autant pour le prendre par surprise !»
marmonna le garde-frontière.
« Personne ne surprend un sorcier de l'envergure de Ral, » dit Zed.
« Un sorcier ?»
répéta Chase en tirant le vieil homme par le bras.
« Ral est un sorcier ?»«
Évidemment. Sinon, comment maîtriserait-il aussi bien la magie ? Il descend d'une longue lignée de sorciers.
Je croyais que tes semblables et toi aidiez les gens, pas que vous cherchiez à les dominer.
Avant que certains d'entre nous décident de ne plus se mêler des affaires humaines, nous dirigions le monde. Il y eut un conflit, la guerre des sorciers, entre les tenants des deux théories. Les rares survivants du camp des dominateurs ne renoncèrent pas à rechercher le pouvoir et à régner sur les hommes. Darken Rahl est le descendant direct de cette dynastie, la maison Rahl. Il est né avec le don, ce qui est rare, mais il l'utilise à des fins personnelles. Cet homme n'est pas encombré par le fardeau d'une conscience.
Chase ne desserra pas les lèvres tandis qu'il montait une formidable volée de marche, slalomait entre des colonnades et franchissait une arche ornée de feuilles de vigne sculptées dans la pierre. Quand ils s'engagèrent dans un couloir, le garde-frontière regarda avidement autour de lui, étonné par la taille et la beauté de ces lieux. Insensible au décor, Callan continua d'avancer comme un automate, l'écho de ses pas se perdant dans les entrailles mystérieuses du palais. Des hommes et des femmes en robes blanches arpentaient les couloirs. D'autres, assis sur des bancs de marbre, méditaient avec l'éternel sourire béat des fidèles qui se croient élus des esprits. Tous arboraient une assurance tranquille coulée dans le bronze de certitude et de révélations fantaisistes. Pour ces gens, la réalité était un brouillard que leur logique démente chassait toujours plus loin, jusqu'à ce qu'ils s'échappent par les fenêtres. Les serviteurs et les disciples de Darken Rahl, des initiés qui s'aperçurent à peine de la présence de trois nouvelles têtes, se contentant au grand maximum de les saluer distraitement. Hautaines dans leurs uniformes de cuir noir, deux Mordecites avançaient à leur rencontre. Quand elles virent Callan et reconnurent les éclairs jumeaux symboles du Kundar, elles blêmirent, firent demi-tour et disparurent prestement. Le couloir conduisit Zed et ses compagnons devant une immense zone ronde, la configuration exacte d'une roue, d'où partaient des dizaines d'autres corridors. La voûte de verre coloré, très haut au-dessus de leur tête, laissait pénétrer un kaléidoscope de rayons de soleil dans la salle centrale aux allures de caverne. Callan s'arrêta et se tourna vers le sorcier. « Par où ? » demanda-t-elle. Le vieil homme désigna un couloir sur leur droite. La mère inquisitrice s'y engagea sans hésitation.
« Comment être sûr que c'est par là ?»
s'étonna Chase.
« J'ai deux moyens de me repérer. Primo, l'architecture de ce palais m'est familière parce qu'elle imite celle d'un sortilège. En réalité, cet édifice est un sort géant dessiné sur la face même du monde. Il vise à protéger Darken Rahl et à amplifier son pouvoir. » Pour l'essentiel, c'est une défense contre les autres sorciers. Ici, je suis presque impuissant. Le cœur de ces lieux est un endroit appelé le Jardin de la Vie. Darken Rahl nous y attendra.
« Et le secondo ?» demanda Chase.
« Les boîtes. Elles ne sont plus camouflées. Je les sens. Elles aussi attendent dans le Jardin de la Vie. »
Et quelque chose clochait terriblement. Zed savait ce qu'il éprouvait à proximité d'une boîte. En toute logique, en présence de deux, la sensation aurait dû être deux fois plus forte. Pas trois. Le vieux sorcier orienta Callan de couloir en couloir et lui fit emprunter les escaliers idoines. Chaque corridor et chaque étage étaient individualisés par une pierre d'une couleur ou d'un type bien précis. À certains endroits, les colonnades se dressaient sur plusieurs niveaux, des balcons connectant les couloirs. Au gré de leur errance, ils passèrent devant des statues géantes alignées le long des murs comme des sentinelles. Il leur fallut des heures pour gagner leur destination, dans ce dédale où il était délibérément impossible d'aller en ligne droite d'un point à un autre. Enfin, ils arrivèrent devant des portes sculptées de scènes champêtres.
« Nous y voilà, mon enfant !»
annonça Zed.
« Le jardin de la vie. Les boîtes y sont. Et Rahl aussi. »«
Merci de m'avoir accompagné jusque-là, Zed, » dit Callan. « Et toi aussi, Chase, »
Elle se tourna vers la porte. Zed lui posa une main sur l'épaule et la fit doucement pivoter vers lui.
Darkenral n'a que deux boîtes. Il mourra bientôt, même si tu ne fais rien.
Alors, lâcha la mère inquisitrice, je n'ai pas une minute à perdre.
Elle poussa les battants et entra dans le jardin de la vie.